Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une émission animée et réalisée au centre de détention de Bapaume par des personnes détenues. Ça s'appelle Bruit de couloir et ça se passe sur PFM 99.9.
C'est déjà le 11e numéro de Bruit de couloir et on commence du côté des salles de sport avec un reportage réalisé sur place par Alain.
Alors, on va commencer l'émission. Alors, je voudrais savoir déjà votre nom et ce que vous faites ici exactement.
Mon prénom, c'est Sébastien et je suis moniteur de sport au centre de détention de Bapaume.
L'accès au sport est-il compliqué ?
Pour vous, non. Non.
Il ne faut pas un certificat spécial, rien du tout ?
Là, par contre, tout le monde doit avoir un certificat médical. Ça, c'est pour les aptitudes physiques et les personnes qui ont des soucis, soit au niveau des membres hauts, membres bas ou cardiaques carrément.
Quelle est l'importance du sport en prison ?
Le sport, c'est une priorité, mais ça doit être obligatoire en fait. C'est la soupape. Déjà, c'est un moment convivial, on peut discuter entre nous. Il y a des échanges et une amélioration de votre ensemble physique général. Ça devrait être obligatoire.
Tout à fait d'accord avec toi. Alors, y a-t-il des séances de sport adaptées pour certaines catégories de personnes, seniors, handicapés, etc. ?
Oui, tout à fait. Alors, à Bapaume, ici, on a la chance d'avoir la spécialité du BVED, c'est le bien vieilli en détention. C'est des personnes de plus de 50 ans, avec ou sans problème physique. S'il y a du problème physique, on le prend en compte. Après, moi, j'ai la chance d'avoir quelques compétences qui me permettent de faire des séances un peu plus particulières sur des personnes qui ont des problèmes physiques. Là, je les suis plus ou moins.
Alors, l'activité sport est-il mixte ?
Pas tous les jours, par contre on a des créneaux et des activités qui permettent de faire du mixte. Donc les activités proposées qu'on a ici, il y a du badminton, on a fait récemment de la pétanque, il y a du tennis de table et on fait aussi des randonnées sur le milieu extérieur.
Le renouvellement des activités sportives, comment ça marche ?
Déjà nous on a un socle d'activités déjà connues et après en fonction des demandes qu'on a de la population pénale, on voit pour étudier, faire des nouveautés.
Pourquoi être obligé de s'inscrire toutes les semaines ? Ça, c'est une chose que j'ai jamais compris, mais enfin, je vais vous poser la question.
En fait, ça ne vient pas de moi, là. C'est la direction du moment où ils ont scindé la détention en quartier et en aile. Ils n'ont plus voulu mélanger tout le monde et ils ont décidé de faire le sport par quartier.
Alors, précisons sur la pétanque à Bapaume. Quand tu organises un concours, comment fais-tu pour organiser un concours de pétanque à Bapaume ?
Alors, pour organiser un concours de pétanque à Bapaume, on va passer déjà par Lucie, qui est responsable au niveau des activités. Elle va faire un appel à demande dans chaque bâtiment. Les personnes intéressées vont faire un écrit qui va lui arriver à son bureau. Ensuite, ces personnes vont être répertoriées. Ça va arriver à mon bureau. On va regarder les personnes qui sont aptes ou pas aptes, qui respectent ou pas le sport. À ce moment-là, s'ils le respectent, ils vont passer ensuite en CPU. Et c'est les dirigeants de chaque quartier qui donnent leurs avis en fonction de leur comportement et des gens qui s'y peuvent être mélangés. Et après, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas pratiquer exactement ici dans la salle ? Enfin, mais dans la salle.
Alors, moi, en fait, en tant que prof de sport, je peux proposer tout ce qui est dans mes compétences. Mais il y a des sports que la direction ne reconnaît pas pour le moment. Après, comme il y a du turnover, ça change. Il y aura peut-être des changements. On a des activités, tout ce qui est à base de pieds-poings, qui est assez demandé, mais qui pour l'instant ne sont pas acceptées. Tout ce qui est boxe ou tout ce qui est en combat ou dès qu'il y a contact avec une autre personne. Pour l'instant, ce n'est pas encore reconnu. Il y en avait avant, mais plus pour le moment. Sinon, j'ai des sorties proposées, sorties vélo. C'est pas encore au jour non plus, et sorti longe-côte, mais c'est toujours pas encore d'activité, peut-être un moment.
Y a-t-il des sportifs de haut niveau, niveau prison ?
J'ai des personnes qui avaient un haut niveau en extérieur, en sportif libre, qui tombent en incarcération J'en ai quelques-uns. Et j'ai des personnes qui étaient du commun des mortels entrées en détention, comme Monsieur Lambda, qui ressort avec certaines compétences. Ouais. Oui, j'en ai.
Vous écoutez toujours Bruit de couloir sur PFM. On évoque maintenant un atelier qui se déroule régulièrement en prison, la médiation animale.
Bonjour mesdames. Alors je vais vous poser quelques questions sur les animaux. Alors quels animaux sont présents à l'atelier médiation animale ?
Il y a 3 chiens avec la dame qui vient, qui fait les cours de la médiation animale.
Combien de temps dure une séance de médiation animale et combien y a-t-il de séances ?
En général, ça dure sur 2 heures, 1 heure, d'accord, 1 heure. Et c'est sur, moi, c'était sur 8 séances. Alors après, je ne sais pas si ça diffère d'une activité à l'autre, mais
8 séances.
Oui, chaque semaine.
Est-ce que cet atelier se déroule en intérieur, en extérieur, dans les quartiers du centre de détention ?
à l'intérieur, au centre du côté où on, la salle où on fait au niveau du sport à l'intérieur de la détention.
Pouvez-vous nous décrire comment se passe une salle de médiation animale ?
Je suppose que ça dépend des séances, mais la plupart du temps, c'est d'abord un petit temps avec les animaux, un temps libre, et ensuite, il y a souvent des parcours, il y a aussi des soins, donc on peut les brosser, leur donner à manger, c'est vraiment aléatoire.
Et quelle sorte de parcours que vous voulez faire ?
Bah, c'est souvent de l'agility, après, il y avait aussi, elle nous a appris des techniques pour assis, aboie, vraiment des signes à faire avec le chien pour qu'il comprenne facilement.
Que vous apporte la relation avec le chien ?
Une relation de patience aussi, je veux dire, un contact avec l'animal qui apaise aussi et puis qui fait qu'on se sent bien, je veux dire, on s'attache à un animal.
Bah pour moi, ça a été un moment un peu privilégié, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de chien, j'aime beaucoup les animaux, c'était un peu un temps décalé de la détention, de l'environnement avec les autres humains.
Que retenez-vous de cette interaction à la fin de la séance ?
Alors on retient surtout beaucoup de patience parce que c'est vrai que quand il obéit pas, qu'on voit qu'on galère un petit peu à le faire s'asseoir ou à faire les parcours, on apprend vraiment à reprendre sur soi, à continuer, à persévérer. Non, c'est une très bonne activité. Et puis pour le lien avec l'animal, c'est vrai qu'on s'attache à eux et puis c'est toujours un très bon moment à passer avec eux.
Oui, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patience et surtout c'est que rien n'est acquis avec l'animal. Il faut toujours lui répéter au niveau de l'éducation, le assis, s'asseoir, voilà. C'est un moment privilégié avec l'animal. On a un lien affectif avec le chien et on s'y attache.
Vous ne m'aviez pas expliqué aussi à un moment que le chien pouvait venir dans l'aile ou passer dans les cellules ? Vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Une fois par mois, l'intervenante vient avec les chiens et puis ça permet d'avoir un moment pour les brosser, de leur faire un... Elle vit avec un tapis où elle met de l'alimentation et le chien cherche. Mais ça permet aussi à des détenus qui ne sont pas très bien à ce moment-là d'avoir un moment avec un chien et c'est vrai que ça leur permet de décompresser, de se déstresser aussi et puis d'avoir un rapport avec un animal. Parce qu'un chien, c'est quand même... il ressent toutes les émotions que la personne a.
Oui, non, ils viennent une fois par mois dans chaque aile. Ils viennent 5-10 minutes, mais c'est toujours un moment... même pour celles qui ne s'inscrivent pas forcément et qui n'ont pas l'habitude des animaux, ils peuvent passer du temps avec eux, avec l'intervenante. Mais c'est vrai que c'est vraiment un moment de détente.
Tu m'avais dit aussi justement que vous appreniez beaucoup du chien au niveau émotionnel, justement parce que c'est des espèces d'éponges par rapport aux humains. Et tu m'avais raconté une petite anecdote aussi où je crois que le chien ne voulait pas venir te voir ou alors il avait passé la séance sur tes genoux, quelque chose comme ça.
Il avait passé, c'était Gemma du coup, c'est un grand chien assez impressionnant, j'avais un peu de mal moi au début, parce que je suis pas, c'est pas que je suis pas à l'aise avec les chiens, mais comme ça faisait longtemps, je laisse plutôt les animaux venir vers moi. Et au final, elle est vraiment restée avec moi, elle s'est allongée au niveau de mes pieds et j'ai pratiquement pas pu participer à la séance, parce que je voulais pas la bouger, en plus c'était vraiment un moment assez câlin finalement, assez mignon.
Je pense que c'est important que les détenus puissent, ça peut leur apporter beaucoup de faire cette activité médiation animale, parce qu'on ressort autrement et puis ça apaise beaucoup quand on repart de cette séance, on est beaucoup mieux.
Vous n'avez le droit à aucun animal dans la prison, pas de hamster, pas de poisson rouge.
Il y a certaines détentions où c'est accepté. Ouais. Il y a certaines détentions où c'est accepté, mais c'est plutôt dans les grosses centrales, ce genre de choses. Et c'est vraiment des petits animaux, hein, style hamster. Je sais que dans une détention, ils ont fait une cellule vraiment juste pour un lapin, par exemple, avec la paille et tout ça, et ils alternent avec les détenus. Mais non, sinon, en centre de détention, en eux-mêmes, non, c'est très rare.
Ce serait ingérable d'avoir un animal en détention. Je veux dire, si on avait des chiens ou des chats, c'est pas possible. Alors que les portes sont fermées, je veux dire, non. Et puis, c'est pas une bonne une solution d'avoir des chiens ou des chats qui sont enfermés dans les cellules, voilà, tout ça soit dans les maisons d'arrêt.
Ou... On
a déjà les petits mulots dans le jardin. On a les oiseaux dehors, voilà. Non, on n'a pas d'animal. Non, d'animaux, non. Et puis c'est bien, franchement c'est bien, c'est une activité qui est proposée pour tous et franchement ça vaut le coup de le faire. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving not a crush, huh?
She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Un peu de poésie dans Bruit de couloir avec Jean-Claude.
Voici venir l'étang où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau, comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui hait le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui hait le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir à moi, lui, comme un ostensoir. C'était donc sur une musique de Franz von Suppé, poète et paysan, la lecture d'un poème de Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, tiré des fleurs du mal, qui s'appelle Harmonie du soir.
Une interview dans Bruit de couloir, un entretien avec une personne d'importance dans le parcours des détenus.
Bonjour Monsieur Ribes.
Bonjour.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes CEPIP, c'est ça ?
C'est ça.
Donc, première question, que signifie CEPIP ?
Eh bien, cela signifie conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Quel est le rôle du CEPIP et quel rôle jouez-vous auprès des détenus ?
Alors, avant de répondre à votre question, il est important de distinguer dans quel cadre le CEPIP intervient. Parce que vous avez des CEPIP qui interviennent en milieu ouvert, c'est-à-dire à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, et vous avez le CEPIP qui intervient en milieu fermé, à savoir donc dans le cadre de la détention. Les missions vont diverger quelque peu, notamment au sujet du maintien des liens familiaux, parce que pour le milieu fermé, cette fonction du CEPIP est beaucoup plus importante que pour les personnes qui sont en milieu ouvert, qui eux ont accès à leur téléphone ou qui ont accès à leur famille. Donc là, déjà, il y a une petite distinction entre le milieu ouvert et le milieu fermé. Dans les deux cas, le métier de CEPIP, c'est de travailler avec l'auteur l'auteur sur son passage à l'acte, pourquoi il a commis cette infraction, et réfléchir sur la commission de cette infraction, et également de travailler avec lui un projet. En milieu fermé, c'est un projet de sortie, notamment dans le cas d'un aménagement de peine, qui sont divers, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et en milieu ouvert, la distinction pour le CEPIP, c'est de vérifier, plus la probation, de vérifier que la personne respecte bien les obligations que le juge, quand elle était jugée, lui a imposées.
Donc, si j'ai bien compris, le rôle du CEPIP à l'extérieur est attribué à une personne qui ne travaille qu'en extérieur.
C'est ça. En fait, le CEPIP en milieu ouvert a en charge des personnes qui ont, par exemple, un sursis probatoire, un suivi socio-judiciaire, un travail d'intérêt général. Là, c'est un CEPIP de milieu ouvert qui s'en occupe.
D'accord.
Vous avez aussi l'hypothèse des personnes qui ont un statut entre deux, c'est-à-dire la semi-liberté ou le placement extérieur, où là, c'est le CEPIP du milieu ouvert qui le prend en charge. C'est pas nécessairement le cas dans tous les CEPIP, mais généralement, c'est le CEPIP du milieu ouvert qui le prend en charge. C'est vraiment pas la même approche entre un CEPIP de milieu ouvert et un CEPIP de milieu fermé, même si nos objectifs restent les mêmes, et ça, je vous en ai pas encore parlé, c'est aussi la lutte contre la récidive, qui est un point extrêmement important dans le travail sur le passage à l'acte. Quand je parle de travail sur le passage à l'acte, c'est pourquoi une personne, justement, a enfreint la loi. Nous discutons, en fait, sur le pourquoi il a commis cette infraction.
Ah, ok, d'accord.
Avec, bien sûr, une façon différente en fonction de l'infraction qui a été commise.
Ceux qui sont détenus à l'extérieur, en bracelet électronique ou en semi-liberté, ont des obligations vis-à-vis du CEPIP, de toute information concernant la détenue, je veux dire, si elle change de travail, je pense,
c'est
si
ça.
Elle change de... ils ont des obligations. Même si c'est en liberté, je pense que la détenue a, jusqu'à la fin de sa peine, des obligations à respecter.
Exactement. En fait, c'est dans le code pénal. Vous avez ce qu'on appelle des obligations générales et également des obligations particulières. Pour les obligations générales, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est par exemple, si vous déménagez, vous devez informer le SPIP et, a fortiori, le juge d'application des peines, par exemple. Et vous avez des obligations dites particulières qui, bien sûr, vont dépendre d'une personne à une autre. Les obligations qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est l'obligation de travail ou de suivre une formation. Pour certaines personnes, une obligation de soins, que ce soit des soins addictologiques ou des soins psychiatriques ou psychologiques, selon l'individu. Également, cette obligation qui est d'indemniser les parties civiles, payer les sommes dues au trésor public et après, dans certains cas, des interdictions géographiques ou des interdictions pour rencontrer quelqu'un ou des obligations de ne pas fréquenter certains lieux. Mais ça dépend vraiment de la personne parce que ça, c'est un grand principe, nous, quand on travaille, c'est le principe d'individualiser les peines, c'est-à-dire de donner une peine qui est la plus adaptée, bien sûr, à la personne considérée.
D'accord, parce que chaque individu détenu a une obligation en fonction de son dossier.
C'est
en fonction
ça, chaque individu est unique et chaque individu a ses difficultés et donc chaque individu doit avoir son suivi le plus adapté possible. En fait, on fait du sur-mesure.
Voilà. Est-ce que votre avis est déterminant pour les demandes d'aménagement et de permission de sortie?
Alors, en fait... Nous, les CEPIP, on fait un rapport, donc dans le cadre d'un aménagement de peine, ou dans le cadre d'une permission de sortir, mais également dans le cadre des remises de peine. Donc nous faisons un rapport qui est transmis au juge d'application des peines. Alors, est-ce que notre avis est déterminant? En fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend essentiellement du juge d'application des peines. Certains juges d'application des peines seront à l'écoute du rapport du CEPIP, mais d'autres juges, en fait, prendront plus de liberté. Nous, on a un avis qui est consultatif, c'est-à-dire, nous, on présente la situation de la personne au magistrat, mais ça reste le magistrat qui prend sa décision. Mais dans la plupart des cas, notre avis est suivi, mais en tout cas, notre rapport est lu par le magistrat afin qu'il puisse prendre la décision sa décision et qu'elle soit adaptée à la situation de la personne considérée.
Comment déterminez-vous le moment où l'on peut lancer les démarches d'aménagement ?
S'agissant de l'aménagement de peine, il y a tout d'abord le cadre légal. Alors, je n'ai pas envie peut-être d'assommer nos auditeurs avec des dispositions de loi, mais pour faire très simple, vous avez deux grandes possibilités pour lancer un aménagement de peine en milieu fermé. C'est vos deux dernières années de détention, ou bien vous pouvez solliciter la libération conditionnelle à partir de la mi-peine. Sur ce qui est de la décision de lancer un aménagement de peine, c'est quelque chose qui est réfléchi avec la personne que nous avons suivie. L'idée étant, c'est de lancer un aménagement de peine qui soit le plus bénéfique à la personne. Parce que faire sortir quelqu'un pour faire sortir quelqu'un, ce n'est pas satisfaisant. Il faut, en fait, quand on sent que la personne est prête, c'est-à-dire que sa réflexion sur les faits et son passage à l'acte a suffisamment mûri. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, dans notre suivi, c'est pas nécessairement une question de temporalité, c'est-à-dire qu'à partir de la mi-peine, on peut lancer quelques éléments, enfin un aménagement, mais ce qui est important, c'est la vision vis-à-vis de la récidive et le risque de récidive de la personne suivie. Si une personne reste complètement bloquée sur les faits et elle ne se remet pas en question, elle ne fait pas de soins, elle ne paye pas ses parties civiles, on ne peut pas lancer un aménagement. Enfin, il faut que la peine ait un sens et que l'aménagement réponde au parcours d'exécution de la peine de la personne considérée. Donc, il n'y a pas de bon moment. C'est vraiment en fonction des entretiens individuels et quand nous, on sent que la personne est prête pour passer devant le juge, là, on commence à lancer le projet.
Donc ça, c'est pour une libération conditionnelle.
Alors, libération conditionnelle, vous avez aussi une mesure probatoire à la libération conditionnelle que vous pouvez solliciter à mi-peine, par exemple, le bracelet électronique, le placement extérieur ou la semi-liberté, qui est un peu plus rare. Donc, vous pouvez lancer ce projet, donc, une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle. Ça, vous pouvez le lancer à partir de la mi-peine. Mais il faut qu'il y ait un projet derrière. C'est-à-dire qu'il faut un travail ou, dans le cas d'un placement extérieur, avoir rencontré une structure pour pouvoir qui peut vous accueillir. Et également, par rapport à un aménagement de peine, ce qui est important pour nous, c'est de lancer un cycle de permission de sortir avant de lancer un aménagement de peine pour voir si tout se passe bien.
Et c'est vous qui, vous parlez de permission de sortir, donc c'est vous qui donnez votre avis également.
Tout à fait, on donne notre avis dans le cadre d'une permission de sortir.
Mais vous n'êtes pas la seule condition, je veux dire.
Non.
Il y a d'autres personnes qui prennent une décision aussi.
Tout à fait. En fait, dans le cas d'une permission de sortir, c'est décidé en ce qu'on appelle une CAP, c'est une commission d'application des peines.
D'accord.
La commission d'application des peines, vous avez le juge d'application des peines, le procureur de la République, la direction de l'établissement, et également le greffe de l'établissement et le SPIP, qui est aussi présent. Et en fait, nous, dans cette cadre de la commission, nous lisons notre rapport, mais après, chacun donne son avis. Et le juge prend sa décision.
Je crois que vous avez oublié un élément.
Je pense aussi.
L'expert psychiatre.
Non, l'expert n'est pas présent à la commission d'application des peines.
Oui, mais son avis compte.
Oui, mais attention, l'expertise, en fait, est nécessaire uniquement pour les personnes qui ont été condamnées ou quand la peine encourue est un suivi socio-judiciaire. Alors peut-être que ce n'est pas très clair. Le suivi socio-judiciaire, donc, c'est une mesure en milieu ouvert, qui peut être prononcée dans le cadre de certaines infractions. Mais c'est uniquement avec ces infractions particulières qu'il faut une expertise psychiatrique. Quand le suivi socio-judiciaire n'est pas encouru, vous n'avez pas besoin d'expertise pour sortir.
D'accord.
Ça, on l'a tous, ça, le suivi judiciaire. On l'a tous. Automatiquement.
Pas nécessairement, en fait.
Oh, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont pas. Hein.
Alors, pourtant, à Bapaume, en fait, on a un centre de détention. Un centre de détention, c'est destiné aux longues peines. Mathématiquement, quand vous avez une longue peine, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un suivi socio-judiciaire que quelqu'un qui est en maison d'arrêt. Parce qu'une courte peine, je prends l'exemple d'un vol, vous n'avez pas le suivi socio-judiciaire qui est encouru. Mais plus la peine encourue est élevée, bien sûr, plus les chances d'avoir un suivi socio-judiciaire encouru et ou prononcé est grande. Donc c'est pour ça qu'à Bapaume, comme on est un centre de détention, on a plus d'expertise que dans d'autres établissements.
Pourtant, la CEPIP dit souvent qu'il y a une expertise psychiatrie pour ceux qui sont plus de 10 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Mais alors pourquoi certains CEPIP disent que même en ayant moins de 10 ans, il y a une obligation de faire une expertise psychiatrique, alors que généralement, c'est des démarches qui sont très longues, parce que quand on lance les démarches, maintenant, je ne sais pas, il paraît qu'à Bapaume, il y a un ou trois experts, psychiatres,
et que
c'est très très long pour lancer les démarches, oui. et d'avoir
c'est
aussi
très long
le
pour avoir les réponses.
Les réponses aussi, et ce qui veut dire que ça retarde
Je réponds à votre première partie de question. Pourquoi une personne qui est condamnée à 8 ans d'emprisonnement doit avoir cette expertise ? En fait, ça revient sur le critère exposé précédemment, c'est par rapport à l'infraction encourue. Vous pouvez avoir une peine prononcée inférieure à 10 ans, mais l'infraction pour laquelle vous êtes condamné, dans la peine encourue, il y a le suivi socio-judiciaire, d'où l'importance d'avoir l'expertise.
Mais quand il n'y a pas marqué socio-judiciaire sur le...
C'est parce que c'est la peine encourue. Vous n'êtes pas forcément condamné au suivi socio-judiciaire, mais dans l'infraction que vous avez commise, le suivi socio-judiciaire est encouru. C'est pas nécessairement... La prononciation la condamnation au suivi socio-judiciaire n'est pas un préalable. C'est dès lors que vous êtes condamné sur une infraction avec laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, vous devez passer par l'expertise. Voilà. Pour répondre à votre deuxième question par rapport aux experts, effectivement, le délai d'attente actuellement sur le centre de détention de Bapaume, c'est environ une année. Alors des fois c'est moins, des fois c'est plus, ça dépend. Effectivement, il y a...
Une année pour passer devant l'expert.
Environ.
D'accord.
Mais il y a quand même plusieurs experts qui sont diligentés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les juges sont au courant de cette difficulté. Et récemment, nous avons pu échanger avec les juges d'application des peines. Et elles sont au courant de cette difficulté. Et elles cherchent justement des solutions pour que les délais soient un peu plus réduits.
Comment se passe un rendez-vous classique ?
Un rendez-vous classique, ça n'existe pas, j'ai envie de vous dire. Il y a le principe qui est l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que l'entretien va dépendre de la personne avec laquelle nous avons la prise en charge. Néanmoins, on retrouve quelques questions communes pour certains entretiens. Généralement, on s'interroge sur comment se passe la détention, si la personne a des questions, et justement, à partir de ces questions, on répond, mais les questions sont différentes d'une personne à une autre. Et ensuite, soit on parle du projet professionnel, soit on parle des faits. En fait, tout dépend aussi à quel niveau vous êtes dans votre processus de suivi. Et l'entretien va être très différent. Si on est sur votre fin de peine, on parlera plus de du projet de sortie. Si on est plus en début de détention, on va plus parler des faits. En fait, ça, tout dépend à quel stade vous êtes et aussi si la personne est réceptive et veut bien discuter. Voilà.
Et quel regard et jugement portez-vous sur les détenus que vous avez en charge ?
Alors, on ne porte aucun jugement.
On a déjà été jugé. Quel est votre regard par rapport ?
Alors, nous, on ne porte aucun jugement sur ce pourquoi vous êtes condamné. C'est absolument pas notre fonction et notre métier. On n'est pas là pour vous juger. Ça, vraiment, c'est... dès le premier entretien, moi, je le dis à mes suivis, je ne suis pas là pour vous juger. L'objectif, c'est de réfléchir, en fait. C'est de réfléchir sur le passage à l'acte, pourquoi la personne a fait ça, et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du projet de sortie. Mais vraiment, on n'est pas du tout dans une posture pour juger, pour vous faire une leçon de morale, pour vous dire « c'est pas bien ce que vous avez fait ». Non, ça a été fait en amont, vous avez été jugé, vous avez été condamné. Maintenant, on passe aux choses plus... On passe à votre réinsertion.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
C'était Bruit de couloir numéro 11, émission réalisée par des personnes détenues au centre de détention de Bapaume, avec aujourd'hui Océane, Alexandre, Alain, Gérard, Manuel, Marie et Jean-Claude. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Retrouvez cette émission sur PFM 99.9 et le www.radiopfm.com.
Des mots qui t'ont fait pleurer mon ange et d'autres qui t'ont révolté, il y a quelque chose qui dérange, où j'en ai fait aux yeux. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans? Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Tu voulais faire l'amour, comment fait-on l'amour? J'étais pas un géant. J'étais plutôt gêné, quelle drôle d'idée, danser si suffisant. Je ne sais plus comment finissait la chanson, j'ignorais qu'elle avait un nom. C'était la chanson du bonheur d'un vieil amant compositeur. J'aime bien les histoires qui me font boire son désespoir. Les mélodies carrées qui font danser, qui font aimer la vie. J'aime aussi sur le tard un piano mort qui meurt d'ennui. Tous les disques oubliés qui font rincer, qui font aimer la vie. Je ne sais plus comment finissait la chanson, j'ignorais qu'elle avait un nom. C'était la chanson du bonheur d'un vieil amant compositeur. Te souviens-tu d'un slow, 10 ans plus tôt, déjà 10 ans? Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Tu voulais faire l'amour, comment fait-on l'amour? J'étais pas un géant. J'étais plutôt gêné, quelle drôle d'idée, danser si suffisant.